Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il fait partie de ces organes essentiels à notre survie. C'est du cœur, de la santé de notre cœur dont nous parlons aujourd'hui dans Priorité Santé. Ce muscle essentiel dont les contractions assurent la circulation sanguine et sa distribution à l'ensemble de notre organisme, ventricule, oreillette, valve, veine, artère. Un muscle d'un peu plus de 300 grammes pour un adulte qui travaille de jour comme de nuit, qui bat à une fréquence qui varie selon l'âge, le genre, l'effort, le moment de la journée ou le stress ressenti. La santé du cœur est conditionnée par l'hérédité comme par le mode de vie, deux leviers sur lesquels peut agir la prévention. En cas d'antécédents familiaux, engager un suivi régulier et dans tous les cas, éviter les comportements néfastes pour la santé cardiovasculaire. Manger équilibré en évitant les apports excessifs en sel, en sucre, en matière grasse, renoncer à la sédentarité, proscrire le tabagisme. Conseil de bon sens pour éviter ces troubles et maladies cardiaques dont la liste est très longue, de l'infarctus du myocarde à l'hypertension en passant par l'angine de poitrine. Et en cas de défaillance cardiaque, la prise en charge peut relever de l'urgence comme du suivi au long cours pour ces affections qui constituent, il faut le dire, la principale cause de mortalité en France comme dans le monde. Et avec nous en studio aujourd'hui, professeur Roland Guetta, bonjour.
Et bonjour, madame Paré.
Vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Pathologie cardiaque au pluriel, on va le voir au cours de l'émission, avec des traitements innovants grâce aux efforts de la recherche, comme dans le cas de l'amylose héréditaire, nouvelle stratégie thérapeutique dont nous parlera tout à l'heure le professeur Thibaut Damy, cardiologue coordonnateur du Centre de référence nationale des amyloses cardiaques au CHU Henri Mondor à Créteil en région parisienne. Et puis, en cas de malaise, de crise cardiaque, comment réagir? Quelle procédure suivre? Nous poserons tout à l'heure la question à Philippe Testa, responsable du département secourisme à la Croix-Rouge française. Et en fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra à vos questions.
Priorité santé sur RFI.
Un grand objectif, réduire le risque cardiovasculaire. Alors avant de parler prise en charge, traitement, la prévention, professeur Roland Guetta, avec des règles d'hygiène de vie pour réduire ce risque cardiovasculaire. On pense bientôt, bien sûr, à ce que l'on mange et on pense aussi à notre façon d'agir au cours de la journée, lutter contre la sédentarité.
Absolument. Donc, lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est avant tout cette amélioration de la qualité de l'alimentation. D'accord? Donc, hygiène de vie, ça passe par une alimentation équilibrée. En Afrique, en général, on se méfie beaucoup du sel, parce que la consommation de sel est importante. On se méfie aussi de l'huile. Quand je dis l'huile, je parle du cholestérol, en général, donc du mauvais cholestérol. Donc attention à l'alimentation avec trop de gras, donc trop d'huile. Mais aussi l'activité physique. Parce que de plus en plus, la sédentarité s'installe, malheureusement, dans notre population. Et il faut vraiment inviter les jeunes, les moins jeunes, à avoir une activité physique régulière pour justement lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces facteurs sont plus présents parce que les gens mangent peut-être moins équilibrés? C'est plutôt une tendance. Et du même côté, sur la sédentarité avec l'urbanisation, est-ce que finalement, la santé cardiaque est aujourd'hui plus précaire, professeur Roland Guetta?
Je dirais oui, parce que effectivement l'urbanisation, le changement du mode de vie en Afrique a fait inscrire les populations dans ce qu'on appelle la transition épidémiologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ces maladies cardiovasculaires sont en train de progressivement augmenter en prévalence, même si les maladies infectieuses restent encore prédominantes, donc faisant supporter à l'Afrique ce double fardeau. Donc effectivement, l'urbanisation a fait que les populations ont une activité physique qui est moindre et également ont changé le mode d'alimentation. Donc on a une alimentation qui est parfois axée sur les fast food, donc alimentation plutôt rapide, parce que l'urbanisation, ça implique justement d'aller très vite, de consommer rapidement pour pouvoir être plus présent.
De moins manger à la maison aussi.
Voilà, de moins manger à la maison. On n'a pas le temps de rentrer, manger, prendre un plat correctement. Il faut aller vite. Et aussi, la réduction aussi de l'activité physique, comme je disais. On a moins de temps pour pratiquer du sport. Et on consomme aussi du tabac, malheureusement, parce que la consommation aussi du tabac est en progression. Et quand on regarde un peu la prévalence du tabagisme chez des patients qui ont eu des accidents cardiovasculaires, on note très clairement que cette consommation est en hausse.
Alors, il y a l'hygiène de vie, il y a aussi l'hérédité. Est-ce qu'il y a justement, professeur Roland Guetta, des profils qui doivent surveiller particulièrement la santé de leur cœur, même si c'est bien sûr valable pour tout le monde? Est-ce que dans ces cas-là, consulter un généraliste, c'est pas forcément suffisant?
Oui, effectivement, il faut faire attention. Lorsque dans votre famille, il y a des personnes qui ont déjà, par exemple, l'hypertension artérielle. On sait qu'il y a des facteurs héréditaires qui interviennent. Si également dans votre famille, il y a des personnes qui ont présenté un accident cardiovasculaire grave, notamment un accident vasculaire cérébral ou un infarctus myocarde. On sait clairement qu'il y a des facteurs héréditaires. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, à prendre l'avis du médecin généraliste, déjà, pourquoi pas, avant même d'aller chez le cardiologue, pour faire des bilans cardiovasculaires, pour éventuellement identifier certaines maladies avant qu'elles deviennent beaucoup plus graves.
Alors, et la particularité de ces troubles ou de ces maladies cardiaques, professeur Roland Guetta, c'est qu'elles se traitent aussi bien, justement, quand il y a une hérédité, sur le long cours que sur l'urgence. C'est justement votre spécialité.
Absolument. L'urgence, malheureusement, c'est souvent le cas en Afrique, parce que les patients arrivent en situation d'urgence. Et l'urgence cardiovasculaire, c'est d'abord des accès, surtout des accidents vasculaires cérébraux, donc les patients qui sont hypertendus et qui ont des poussées tensionnelles importantes qui vont déboucher sur ces accidents vasculaires cérébraux. C'est aussi la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde. Et l'infarctus du myocarde, effectivement, comme le dit, c'est une de notre, on va dire, notre champ d'action, puisque je suis cardiologue interventionnel, je prends en charge beaucoup de patients qui présentent justement ces infarctus du myocarde. Et là, on est effectivement dans l'extrême urgence, puisque la mort subite peut arriver très vite. Et là, il faut aussi mettre en œuvre des mesures de revascularisation assez précocement. Ça passe par les médicaments, mais ça passe aussi par des techniques de revascularisation modernes, notamment l'angioplastie coronaire, qu'on a la chance de pouvoir pratiquer en Côte d'Ivoire pour sauver les patients.
Alors, professeur Roland Guetta, vous restez avec nous, bien sûr. On va précisément décrire ce qui se passe face à une urgence cardiaque. Avec ces gestes qui sauvent, hein, c'est l'expression consacrée, en ligne avec nous, Philippe Testa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du département secourisme à la Croix-Rouge française. Gestes en urgence, on a compris à l'instant avec ce qu'a dit le professeur Nguetta, le caractère immédiat de l'intervention. Pourquoi ce facteur temps est-il si important? Pourquoi une telle urgence?
Tout simplement parce que lorsque quelqu'un est en arrêt cardiaque, Le pourcentage de chances de pouvoir récupérer une circulation et donc une activité normale, ça s'amenuise de 10% par minute. Donc l'idée, c'est d'intervenir le plus rapidement possible, si possible avec le massage cardiaque externe associé aux insufflations bouche à bouche, avec en plus la possibilité, là où c'est possible, d'utiliser un défibrillateur. Mais concrètement, le temps est vraiment compté.
Est-ce qu'il y a un protocole, des préalables très importants, voire indispensables, Philippe Testa, quand on est témoin d'un malaise cardiaque?
Déjà, le mieux, c'est d'être formé. Alors, c'est tout un débat. Hein, et en ce qui concerne, puisqu'on est sur RFI, la Croix-Rouge française héberge le Centre mondial de référence en premier secours, qui a la charge d'éditer les guidelines internationaux qui permettent à l'ensemble des sociétés nationales de la Croix-Rouge de pouvoir diffuser les premiers secours partout dans le monde, et en particulier en Afrique aussi, hein, puisqu'on travaille beaucoup avec nos camarades africains. L'idée, c'est d'être formé d'abord, c'est-à-dire d'avoir une formation de base sur au moins le passage de l'alerte, parce que l'alerte cancers, ça se passe pas vraiment n'importe comment. Et puis ensuite, la mise en œuvre des gestes de réanimation, donc massage cardiaque bouche à bouche, association du défibrillateur là où c'est possible. Voilà, je pense que c'est la base. Et ça fait des années en fait que certains pays l'ont intégré, même dans les programmes scolaires, ce qui fait que les gens sont, et surtout les jeunes, sont sensibilisés très tôt.
Dès le collège, il y a des cours comme ça.
Dès le collège, voilà, c'est ça. Alors en France, ça met du temps à se mettre en place, mais enfin, c'est en bonne voie, c'est bien parti. Mais je pense par exemple aux pays du nord de l'Europe où c'est très développé. Et en ce qui concerne l'Afrique, il y a les premiers secours à base communautaire aussi qui sont très importants et qu'on déploie de plus en plus. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est réellement de pouvoir intervenir. On sait que les gens qui sont formés, au bout d'un certain temps, perdent un peu l'algorithme d'intervention. Donc ça veut dire qu'il faut être itératif sur le sujet, c'est-à-dire qu'il faut former les gens, il faut faire des piqûres de rappel régulièrement, mm-hmm. pour que les gens ensuite n'aient pas l'appréhension du passage à l'acte. Puisqu'en fait, la problématique surtout, c'est le passage à l'acte. Une fois qu'on a vu que détecté que la personne est en arrêt cardiaque, il faut bien pouvoir intervenir.
Avec la part de responsabilité, bien sûr.
Voilà, c'est aussi tout un débat, hein. On n'aura pas le temps de le traiter ici, mais...
Mais en tout cas, ce que vous nous dites, Philippe Testa, c'est que quand on n'est pas formé, pas la peine d'essayer quand on ne sait pas faire...
Si, on faut essayer, essaie quand même. C'est bien qu'à partir, alors...
Qu'est-ce
après,
qu'on fait, justement,
si on... mais
parce qu'on peut se dire, est-ce que je vais être capable,
hein. Je pars sous contrôle du professeur qui est au bout de la ligne, mais concrètement, je pense qu'il faut tenter les compressions thoraciques. C'est simple, hein, mettre ses mains au milieu du thorax et appuyer. Je pense que c'est le minimum. Quand on est formé, c'est très bien. Si on n'est pas formé,
on essaye
quand
même.
Au moins le tenter. S'il y a la possibilité de joindre un service de secours, ce qui s'est fait de plus en plus maintenant, c'est que les services de secours aident à la mise en place de la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire que les gens qui répondent, les répondants dans les services de secours, maintenant disent aux gens, bah, écoutez, si vous ne savez pas faire le massage, je vais vous expliquer. Donc ils expliquent, ils accompagnent et ils rythment le massage aussi pour que, en attendant l'arrivée des secours, les gens puissent au moins exécuter le massage cardiaque. Donc je pense que l'idée, c'est qu'effectivement, il faut faire les compressions. Je sais que c'est compliqué, que les gens ont du mal à passer à l'acte souvent. Et je crois que le maître mot, quand même, c'est, même si ça devient un peu une sorte de ritournelle, c'est vraiment que les gens soient formés le plus tôt possible.
Merci beaucoup, Philippe Testa. Je rappelle que vous êtes responsable du département secourisme à la Croix-Rouge française. Professeur Roland Guetta, vous avez écouté cet échange avec beaucoup d'attention. Cardiologue interventionnel, vous disiez justement intervenir sur ces crises, qu'une fois que les gens arrivent dans vos services, ces formations aux gestes qui sauvent, hein, ils sont bien sûr aussi dispensés dans toute la sous-région.
Oui, on a la possibilité, heureusement, d'avoir accès à ces gestes qui sauvent, mais étant entendu que quand même une grande partie de la population
ignore.
Voilà, c'est un peu la difficulté.
Donc l'important, c'est de sécuriser la personne et l'amener le plus vite possible dans un service compétent.
Absolument, sécuriser la personne et, comme on dit souvent, appeler au secours.
Professeur Roland Guetta, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et on rejoint le Gabon, Libreville, où l'on vous retrouve. Audi, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Le professeur Roland Guetta est à votre écoute. On écoute votre question.
J'ai ma petite maman qui a fait un AVC. Elle a eu... elle s'est paralysée. Donc, au sortir de là, elle réagit bien. Bon, le pied, le bras, ça va. Mais deux semaines après, elle a commencé à avoir un peu des troubles. Elle ne nous reconnaissait pas. Donc, jusque-là, c'est comme si, en fait, elle perdait un peu, je ne sais pas comment dire, la mémoire.
Mm-hmm.
Voilà, donc jusque-là, j'aimerais savoir si ce sont les effets de l'AVC.
Alors, des séquelles éventuelles, professeur Roland Guetta, Audi qui s'inquiète pour la santé de cette proche, est-ce qu'il peut y avoir justement, après un petit temps, justement des signes assez inquiétants comme ça qui peuvent apparaître?
Absolument. Effectivement, quand on fait un accident vasculaire cérébral, souvent ce qui est visible, ce sont les déficits d'un membre, c'est-à-dire que la perte de l'utilisation d'une partie du corps. la jambe, le bras. Mais il faut savoir aussi qu'il peut avoir des troubles cognitifs. C'est-à-dire que, comme l'auditrice a dit, le patient ou la patiente peut commencer à perdre progressivement le contact avec aussi son entourage, à avoir des troubles mentaux.
C'est dû à quoi? Un problème au niveau du cerveau, d'oxygénation?
Au niveau du cerveau. C'est lié en fait à la zone qui est touchée par l'accident vasculaire cérébral. En fonction de la zone qui est touchée par l'accident vasculaire cérébral, en fonction aussi de la répétition des accidents vasculaires cérébraux, on peut avoir in fine ce genre de troubles mentaux.
Alors, on parle de séquelles. J'imagine que derrière, la question d'Audi, c'est de savoir si ces séquelles sont irréversibles. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Oui, il y a quelque chose à faire. En général, chez ces patients-là, il faut très vite commencer ce qu'on appelle la réadaptation, la rééducation. Donc, c'est des patients qu'il faut très vite amener en centre de réadaptation, de rééducation, pour essayer, dans la mesure du possible, de récupérer le plus rapidement possible les parties du cerveau qui
reprendre ses compétences,
qui sont dormantes ou qui peuvent éventuellement recommencer à fonctionner normalement.
Audi, est-ce que votre proche est allé en consultation voir quelqu'un justement suite après ces problèmes à vous reconnaître notamment? Est-ce qu'elle a vu un médecin?
Oui, en fait, en ce moment, elle est même à l'hôpital. Ça fait 2-3 semaines qu'elle est à l'hôpital. Dès qu'elle a eu son AVC, on l'a amenée à l'hôpital. Comme je vous dis, la tension, en fait, elle est normale, elle a la normale, mais c'est en fait le mental, c'est ça le problème.
Et c'est ce que vous avez constaté en allant la voir à l'hôpital, alors?
Oui, oui, voilà. Après, depuis jeudi dernier, ça ne va pas, c'est ça, en fait.
C'est encore assez récent, de toute façon. Il faut peut-être que les choses se stabilisent. Professeur Guetta, il y a une évolution comme ça dans le temps?
Oui, ça peut, on peut évoluer parfois vers une certaine récupération, mais aussi il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer aussi ces troubles. Parce que quand on fait un accident vasculaire cérébral, c'est vrai, il y a les troubles neurologiques qui peuvent lier directement à l'accident, mais il peut aussi y avoir d'autres facteurs qui peuvent être responsables de certains signes. Donc il faut que les médecins aussi expliquent à l'entourage un peu les résultats des explorations qui ont été effectuées pour vraiment faire la part des choses entre les signes qui sont liés à l'accident vasculaire cérébral et éventuellement d'autres signes qui peuvent être liés à des désordres métaboliques ou tout autre.
Ou avec d'autres problèmes. Merci beaucoup, Audi, pour cet appel du Gabon. On va partir tout de suite rejoindre Fatima en Guinée, à Conakry précisément. Bonjour, Fatima.
Bonjour.
On vous écoute, le professeur Roland Guetta vous écoute.
Oui. Moi, je suis une patiente âgée de 63 ans. Mm-hmm. Je suis hypertendue depuis longtemps, 10 ans à peu près. Et maintenant, je ressens des palpitations et des vertiges. Et vraiment, les palpitations, ça va, ça vient. Et j'ai le cholestérol qui monte des fois. Mais ce qui m'inquiète, c'est que depuis 2 ans et demi, je prends le valsartan. Et la dernière fois que je vous ai écouté, c'est à travers vous que j'ai connu que le valsartan donne le cancer et que c'est éliminé des laboratoires. Alors, je n'ai pas pu intervenir parce que vous n'aviez pas le temps. Et j'ai immédiatement appelé mon cardiologue. Je dis, le valsartan est interdit alors que moi, je le prends depuis 2 ans et demi. Il dit, mais il faut venir, on va changer ton médicament. Quand je suis allée avec ma boîte de médicaments, il se trouve que j'avais acheté le Tareg à Paris. Le Tareg est fait par un laboratoire qui n'est pas concerné par les laboratoires. Une dizaine de laboratoires est éliminée, mais il y a des laboratoires qui ne sont pas concernés dans le site web. Donc le docteur m'a dit, il dit, le Tareg, est fait par Novartis. Mm-hmm. Est un grand laboratoire parce que j'ai un lot presque d'un an de ce médicament que j'ai maintenant là. Alors il me dit que je peux continuer à prendre le Tareg. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans le site, on me dit que ça donne le valsartan donne le cancer. Alors que le Tareg aussi, la molécule, c'est le valsartan. Donc, ce qui m'inquiète, même il y a 3 jours, j'ai dit au docteur, je ne suis pas tranquille. Après un bilan qu'il m'a fait, le scan du cœur et tout, je dis, est-ce qu'on ne va pas changer puisqu'on parle de cancer? Il me dit, en tout cas, je te précise que même en Tunisie, on nous vendons le tareg encore. Le tareg ne fait pas partie des produits du valsartan qui donnent le cancer. Il m'a dit, alors si tu veux, prends le Lozard 50, Lozard ou Lausanne. Alors, ce qui m'inquiète, c'est surtout autour de ce valsartan-là. J'aimerais avoir vraiment, docteur, des précisions, parce que quand on parle de cancer...
Forcément, forcément, on s'inquiète. On va tout de suite donner la parole au professeur Roland Guetta. Mais si vous vous souvenez bien, Fatima, pendant l'émission, justement, le médecin qui était au micro de RFI disait « Il ne faut pas s'inquiéter et même pour certaines personnes qui n'ont pas d'alternative de médicaments, on va continuer de leur en donner. Ce n'est pas parce qu'il y a une substance classée comme cancérogène probable que cela va forcément... donner le cancer. Mais je donne la parole tout de suite au véritable spécialiste, c'est pas moi du tout, c'est bien vous, le professeur Guetta. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Fatima ? On comprend bien, elle a besoin d'être assurée.
Oui, absolument, parce que surtout que ce sont des médicaments qui sont pris au long cours et qui sont pris depuis longtemps chez certains patients. Donc effectivement, il y a eu des soucis avec certains lots de valsartan. Mais il faut savoir que ces lots-là ont été clairement identifiés. Donc on sait aujourd'hui les produits chez lesquels il y a eu, en fait, dans le processus de fabrication des substances éventuellement cancérigènes qui ont pu être identifiés donc dans ces lots-là et qui ont été donc clairement retirés. Donc il faut, pour les patients, premièrement, le communiquer deux messages. Le premier message, c'est de ne pas arrêter les médicaments sans l'avis du médecin. Parce que le risque... aigu est beaucoup plus important que le risque potentiel cancérigène. Parce que si vous êtes hypertendu, que vous arrêtez votre traitement, vous pouvez avoir des poussées tensionnelles et faire un accident vasculaire cérébral. Deuxième message, il faut vous rapprocher de votre médecin ou de votre pharmacien. Les médecins et les pharmaciens sont censés avoir la liste des produits qui sont concernés par ces retraits. Et donc, comme vous le dites, comme l'auditrice me le disait, pour citer le produit d'un grand laboratoire, le Tareg, par exemple, n'est pas concerné par ce retrait.
Mais ce qui inquiète Fatima, c'est de dire j'ai pris pendant 2 ans ce produit, qu'est-ce que je risque? D'abord, je pense qu'on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle continue bien à prendre un traitement pour son hypertension.
Absolument. Il faut qu'elle continue à prendre le traitement de l'hypertension. Moi, je voudrais la rassurer d'être tranquille et peut-être se rapprocher aussi de son cardiologue, son médecin généraliste, et éventuellement du pharmacien chez qui elle s'approvisionne, pour être rassuré. Mais il faut surtout pas arrêter le traitement et dire que les lots de valsartan qui sont concernés par ce problème de cancer, ces lots-là sont bien identifiés et il y a vraiment pas de raison de s'inquiéter.
Ils ont été retirés du marché.
C'est vraiment sur le principe de précaution que ces lots ont été retirés. Heureusement, ils sont quand même identifiés.
Voilà de quoi vous rassurer, Fatima. On peut ajouter, hein, pour être tout à fait complet, qu'un autre médicament a été retiré en France. Là, c'est l'irbesartan, pour les mêmes raisons à peu près, professeur Nguetta.
Oui, c'est de la même famille c'est de la même famille des sartans, et donc c'est aussi quelque chose qui vient de se produire.
C'est la même problématique.
Voilà, c'est la même problématique.
Excellente journée à vous, Fatima Conakry. On part pour la République démocratique du Congo, pour Goma, où l'on retrouve Franck. Bonjour, Franck.
Bonjour, bonjour la RFI, bonjour Caroline, pareil.
Bonjour.
Bonjour au docteur aussi.
On vous écoute.
Oui, il y a peu de temps, j'avais perdu ma petite amie et cela m'a amené à consommer plus d'alcool, notamment de liqueurs et de temps en temps à fumer, mais pas à grande échelle. Au bout de temps, j'ai constaté des signes. Des fois, je n'arrivais pas à bien parler, donc mon centre de langage était perturbé. Certaines zones de mon corps n'arrivaient pas à être irriguées par le sang et j'avais du mal à me mouvoir comme je le voulais. Alors, j'ai été voir un médecin généraliste, il a pris mon pouls, donc ma tension, et il a dit que j'étais hypotendu. Alors, il m'a prescrit des médicaments, notamment de la furosémide, si je me rappelle bien, et du Dexa. Mais ça n'allait toujours pas. Alors, je suis parti juste rendre une petite visite à ma mère et je lui ai expliqué le problème que j'avais parce que c'était remarquable. Et d'un coup, elle m'a sorti et moi, elle m'a dit que je souffrais de la cardiopathie. Or, ma mère est juste une sage-femme, alors elle n'a pas su bien expliquer ça, mais elle m'a juste donné quelques conseils, notamment hygiéniques et alimentaires. Je les ai suivis Elle m'a dit aussi d'y ajouter du vitamine B1. Chose étonnante, ça a marché et là je vais très bien. Néanmoins, je voulais juste poser quelques questions au docteur, parce qu'avec le niveau de ma mère, je ne comprends pas réellement qu'est-ce que signifie la cardiopathie. Donc c'est ma première question, c'est quoi la cardiopathie? Deuxièmement, je veux savoir, est-ce héréditaire et est-ce que c'est curable? Voilà un peu en gros des petites questions.
Cardiopathie, donc Franck qui vous demande une définition, professeur Roland Guetta. Cardiopathie, ça ne veut pas dire maladie du cœur?
Effectivement, sous le thème de cardiopathie, ça regroupe beaucoup de choses en fait. Cardiopathie, ça veut dire atteinte du cœur.
C'est une grande famille.
C'est une très très grande famille et il faut savoir que le cœur est composé de plusieurs parties. Il y a le muscle cardiaque lui-même, il y a les valves cardiaques et il y a aussi l'endocarde, c'est une autre paroi qui tapisse l'intérieur du cœur.
Mais dans ce cas-là, elle n'a pas tort, la mère de Franck, parce que l'hypertension, ça fait partie aussi de ces maladies. C'est oui. Vasculaire, mais je sais pas, mais c'est une grande famille de maladies. Quand on a une cardiopathie, on ne va pas voir le médecin en disant « donnez-moi tel médicament pour ma cardiopathie ».
Absolument, il faut identifier la cardiopathie. Et vraisemblablement, tel que explique notre auditeur, sa symptomatologie est liée probablement à une atteinte du muscle cardiaque. Parce qu'on sait que la consommation d'alcool peut toucher directement le muscle cardiaque. On sait aussi que certaines carences vitaminiques peuvent toucher le muscle cardiaque. Donc, on va dire, faire en sorte que le cœur ne se contracte plus correctement. Donc, à l'effort, il peut présenter un essoufflement, donc une dyspnée, ou encore présenter des palpitations. Donc, c'est probablement, chez notre auditeur, une atteinte du muscle cardiaque.
C'est déjà une bonne chose, il a changé son hygiène de vie, limité la consommation d'alcool, apparemment pris aussi cette vitamine B1. Voilà. Précisément, la vitamine B1, elle agit comment?
Ben justement, elle permet de suppléer cette carence vitaminique et de permettre au bon fonctionnement des cellules myocardiques, donc des cellules qui vont rentrer dans la contraction du muscle cardiaque. Donc, chez ce patient, on peut dire qu'il s'agit plutôt d'une cardiomyopathie, c'est-à-dire que c'est une atteinte vraiment du muscle cardiaque. Parce qu'il y a des cardiopathies dites valvulaires, où c'est l'atteinte des valves cardiaques ou des valvulopathies, mais quand c'est le muscle cardiaque qui est directement concerné, on parle de cardiomyopathie. Donc, on peut dire à notre auditeur qu'il s'agit plutôt d'une cardiomyopathie, donc d'une atteinte direct de son muscle cardiaque, lié probablement à la consommation d'alcool et lié aussi à des carences vitaminiques.
Est-ce que ça veut dire que Franck, donc, qui est à Goma, doit aller consulter pour en parler précisément avec un médecin?
Oui, il doit consulter un médecin qui va lui réaliser un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. C'est l'échographie cardiaque, donc qui permet de voir, c'est une imagerie du cœur, qui permet de voir le muscle cardiaque, d'apprécier la contractilité, d'apprécier les tailles des cavités cardiaques, d'apprécier les flux entre les différentes cavités cardiaques. Et c'est cette échographie cardiaque qui permettra de préciser...
De définir sa cardiopathie précise.
De préciser la nature de sa cardiopathie, donc de l'atteinte du cardiaque.
Donc voilà Franck, allez faire une exploration pour en savoir plus sur l'état précis de votre cœur pour adapter la prise en charge. J'espère que cette réponse du professeur Nguetta vous a satisfait. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée à Goma. Et un dernier auditeur que nous prenons, il est au Tchad, c'est Beboto. Non, la ville c'est Beboto et le prénom c'est Osana. Là je ne me trompe pas. Bonjour Osana.
Bonjour Caroline Paré, bonne année à vous et à tous les auditeurs de Priorité Santé.
Très gentil, même chose à vous et à votre entourage, on écoute votre question.
Oui, j'ai ma grand-mère d'une cinquantaine d'années qui souffre tellement de la maladie cardiovasculaire. Mm-hmm. Elle a fait plusieurs arrêts cardiaques et à chaque fois que cela arrive, nous on ne pensait pas qu'elle va se remettre parce que c'est carrément la mort. Il n'y a plus un espoir. Mais après l'intervention des médecins, elle retrouve quand même la vie. Et cette maladie a paralysé même certaines de ses membres. Et elle parle même, on dirait, comme un enfant qui apprend à s'exprimer. Alors, même son régime alimentaire est devenu trop compliqué, au fait que la famille s'inquiète trop, quoi. Alors, ma préoccupation est de savoir comment peut-on reconnaître les signes, parce que souvent, quand cela nous surprend, et ça crée la panique au sein de la famille. Donc, j'aimerais savoir, peut-on avoir un signe au préalable qui peut prouver que voilà, c'est la manifestation, ou bien cela arrive toujours sans signe et subite, quoi.
Donc Osana qui s'inquiète s'il y a une récidive de crise chez sa grand-mère, comment est-ce qu'il peut prévenir cela pour ne pas à nouveau se trouver dans l'urgence et dans la peur pour justement la survie de son aïeul? Comment est-ce qu'il peut faire?
Oui, d'abord il faut savoir, il faut s'assurer effectivement qu'il s'agit de véritable arrêt cardiaque. Parce que peut-être que...
Est-ce que c'est un AVC? Est-ce que c'est un arrêt cardiaque?
Absolument. Je pense que c'est peut-être un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire que sa grand-mère a perdu connaissance, en fait. Elle a perdu connaissance, mais pas forcément avec un arrêt cardiaque. Parce qu'un arrêt cardiaque, il faut quand même mettre des mesures rapidement en œuvre pour pouvoir le récupérer. C'est d'autant plus que si ça s'accompagne d'une paralysie d'une partie du corps, il y a de fortes chances que ce soit un accident vasculaire cérébral avec des troubles à conscience. Donc il faut voir cela. Il y a des petits signes qui peuvent déjà alerter, puisque on sait aussi que ces accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir dans le cadre de troubles du rythme. Donc, des troubles du rythme qui peuvent provoquer ces accidents vasculaires cérébraux. Et ces troubles du rythme peuvent se manifester par des palpitations. C'est-à-dire que le patient va sentir son cœur battre, ce qui n'est pas normal.
En même temps, ça peut être compliqué, comme Osana dit que sa grand-mère a du mal à s'exprimer. Peut-être qu'elle ne va pas être capable forcément de donner ses signes. C'est peut-être un petit peu compliqué dans ce cas-là.
Absolument. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est de pouvoir réaliser un minimum de bilan cardiovasculaire, notamment un électrocardiogramme, qui permettra de voir s'il existe une arythmie cardiaque. Et ensuite, aussi réaliser une échographie cardiaque pour voir s'il y a une cardiopathie en dessous qui pourrait éventuellement expliquer
ces crises à répétition
et mettre en œuvre le traitement qu'il faut.
Voilà Beboto pour ses conseils. Mmh. Allez consulter avec Osana, ce conseil, allez consulter avec votre grand-mère justement pour qu'elle puisse faire de nouveaux examens pour prévenir des récidives. On vous souhaite une très bonne journée à Beboto. On a vu des traitements adaptés à chaque patient et puis aussi des traitements innovants, ce qu'on va voir tout de suite.
RFI.
En ligne avec nous, professeur Thibaut Damy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue et coordonnateur du Centre de référence nationale des amylose cardiaques au CHU Henri Mondor à Créteil en région parisienne. Nous avons enregistré cet entretien juste avant l'émission. Professeur Damy, un traitement novateur qui concerne une pathologie très spécifique et qui peut se révéler grave. Il s'agit de l'amylose héréditaire, c'est bien cela ?
Tout à fait. Donc, les amyloses héréditaires sont des pathologies où, du fait d'une mutation génétique, le corps humain va produire des protéines qui sont modifiées. Et ces protéines vont avoir la faculté de former des fibrilles. Et ces fibrilles vont infiltrer les tissus en les rigidifiant. Et bien sûr, quand on rigidifie le cœur ne fonctionne plus, il se transforme en pierre et on devient insuffisant cardiaque.
Une nouvelle stratégie thérapeutique dont on va parler. Mais d'abord, avant ce nouveau traitement, quels étaient les recours pour les patients pris en charge pour cette forme d'amylose cardiaque?
Alors malheureusement, pour les patients qui avaient une amylose cardiaque, il n'y avait aucun traitement avant celui dont on va parler. Et tous les traitements classiques de l'insuffisance cardiaque étaient malheureusement contre-indiqués, comme les bêta-bloquants ou les inhibiteurs d'enzymes de conversion. C'est un petit peu compliqué pour vos auditeurs, mais la spécificité de cette maladie qui est transformée le cœur en pierre, aucun traitement ne pouvait marcher puisque le seul traitement pour avoir une efficacité, il faut stopper en fait l'infiltration du cœur par ces protéines et donc agir directement sur le processus infiltratif. Et aucun des médicaments actuellement que nous disposions dans l'arsenal thérapeutique des patients insuffisants cardiaques ne peut le faire.
Une image qui permet de bien comprendre les choses, cette expression que vous avez employée, transformer le cœur en pierre. Mais avant ce traitement, on le redit, qui est nouveau, vous preniez quand même en charge ces patients. Alors qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, quand on prenait en charge ces patients, on allait essayer de pallier en fait toutes les complications de cette maladie et prévenir les complications. Donc on allait traiter les patients qui avaient une rétention d'eau et de sel et qui gonflaient avec des œdèmes par des traitements diurétiques. On allait arrêter les traitements classiques de l'insuffisance cardiaque comme les bêta-bloquants ou les IEC qui aggravent ces patients. Donc vous voyez, c'est-à-dire que les cardiologues sont amenés à prescrire des médicaments quand le diagnostic n'est pas fait et ces médicaments peuvent aggraver les patients, donc on les arrêtait. On allait prévenir les troubles liés à l'électricité du cœur, puisque ces fibrilles vont également infiltrer les tissus électriques du cœur. Donc on allait poser des pacemakers ou des défibrillateurs à ces patients. Et ces patients, du fait de l'immobilité du sang dans le cœur, du fait qu'il se transforme en pierre, formaient des caillots. Et donc on allait leur mettre des anticoagulants pour prévenir des complications de caillots qui partent du cœur et qui donnent des paralysies, des accidents vasculaires cérébraux. Donc on était extrêmement préventif, on va dire, dans la survenue des complications. Et puis, bien sûr, il fallait traiter et aider les patients pour améliorer leur qualité de vie, puisque ces fibrilles infiltrent aussi d'autres organes que le cœur. Et donc, il y avait toute une prise en charge globale pour préserver la qualité de vie des patients.
On a compris maladie évolutive, donc. À quel terme, professeur Thibaud Damy, quand l'amylose était diagnostiquée, les perspectives pour les patients, c'était quoi exactement ?
Alors, c'est extrêmement variable, bien sûr, du moment où est fait le diagnostic. Le problème, c'est que le diagnostic a été fait jusqu'alors très tardivement et les patients arrivaient quasiment tous au moment du diagnostic en stade d'insuffisance cardiaque. Et à ce stade-là, avant ce traitement, le pronostic est malheureusement mauvais. C'est difficile de donner des chiffres puisque chaque patient est différent, mais c'est quasiment un patient sur deux qui décédera dans les 3 à 4 ans après le diagnostic à un stade avancé. Donc, vous voyez un petit peu, c'est une des maladies cardiaques malheureusement les plus graves. Hein. Mais tout dépend, pour ne pas affoler vos auditeurs évidemment, à quel stade est fait le diagnostic de la maladie. Donc, on a beaucoup travaillé pour améliorer ce dépistage de cette maladie qui était méconnue par la plupart des cardiologues et par nous-mêmes hein, il y a une dizaine d'années, développer des nouveaux outils pour arriver au diagnostic imagerique et également génétique de façon à pouvoir faire le diagnostic et aider au mieux ces patients. Alors, ce qui est peut-être important pour vos auditeurs, c'est que la particularité de cette amylose héréditaire, c'est que la mutation génétique est observée chez 3,6% des patients d'origine africaine. Donc 3,6% des sujets normaux africains sont porteurs de cette mutation. Et fort heureusement, ce n'est pas 3,6% des malades qui vont développer cette maladie, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. C'est une partie de ces 3,6% qui vont développer cette maladie, mais vous voyez, ça fait un grand nombre. Et autre particularité de cette maladie, c'est que la mutation génétique est bien sûr là dès la conception, mais la maladie informe cardiaque va se déclarer assez tardivement vers 65-70 ans. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses encore à comprendre.
Alors justement, le nouveau médicament, est-ce qu'on peut décrire, professeur Thibaud Damy, son effet en des termes simples ?
Des termes qui sont très simples, effectivement, c'est que ce médicament, c'est un stabilisateur de la protéine qui va empêcher en fait la transformation de la protéine en fibrille amyloïde. Voilà.
Donc au départ, ça prend le problème au tout départ.
Dès le départ, ça stabilise en fait la protéine pour éviter qu'elle se transforme en fibrille et qu'elle infiltre le cœur. Donc on peut, vous voyez, c'est un médicament qui marche à tous les stades de la maladie, évidemment pas au stade ultime, mais plus on pourra le mettre précocement, plus on pourra bien sûr améliorer le pronostic des patients. Et dans cette étude qui s'appelle l'étude ATTRACT, il y a quand même 30% de moins de décès et 32% de moins d'hospitalisation. Et dès 3 mois, on voit une nette amélioration de la qualité de vie et des capacités à l'effort, notamment de la marche. Donc c'est vraiment un médicament qu'on attendait et qui va changer vraiment la donne dans la prise en charge de cette pathologie, l'amylose cardiaque à transthyrétine héréditaire.
Professeur Thibaud Damy, dernier point, traitement très prometteur, on l'a compris, gros bémol, hein, comme c'est très très souvent pour les traitements innovants, bémol du côté de son coût financier, de son prix.
Alors, le coût et le prix n'est pas encore connu. Il faut savoir que là, vous m'avez posé des questions sur l'amylose héréditaire, mais elle est aussi valable pour le traitement de l'amylose à transthyrétine sénile, qui est une sorte de maladie Alzheimer cardiaque. Donc, ce médicament sera indiqué dans les deux formes, la forme héréditaire et la forme liée à l'âge. Et donc, c'est des milliers de patients qui existent en France et bien sûr en Afrique dans ces deux pathologies. Et évidemment, le coût va être évalué. Actuellement, ce médicament a une indication dans les amyloses héréditaires neurologiques. Hein, c'est un autre à la transthyrétine. Et le prix est effectivement très élevé, c'est 4 500 € par mois. Donc, il va y avoir une réévaluation probablement au niveau cardiaque pour l'indication cardiaque de ce prix. Puisque là, on va être face à des milliers de patients en France. Et je pense que l'État n'acceptera pas un tel prix pour ce médicament. Mais ça, c'est du ressort des agences.
Qui discutent et qui débattent pour fixer le prix de ces médicaments. Merci beaucoup. Merci, professeur Thibaud Damy. Merci. Je rappelle que vous êtes donc cardiologue coordonnateur du Centre de référence nationale des amyloses cardiaques au CHU Henri Mondor à Créteil.
RFI.
On vous retrouve, professeur Roland Guetta. On aborde la dernière partie de notre échange. On a entendu avancer de la recherche pour cette maladie précise. Est-ce qu'en général, la santé cardiaque, c'est un domaine justement où il y a beaucoup d'innovations ?
Oui, il y a beaucoup d'innovations. En tout cas, en cardiologie, beaucoup d'innovations sur le plan thérapeutique, sur le plan des médicaments, comme sur le plan des techniques interventionnelles.
Alors, quelque chose de très important, bien sûr, quand on parle de la santé du cœur, c'est la chirurgie. J'imagine qu'il y a un grand nombre de patients qui arrivent dans votre service, entre vos mains, ont besoin de chirurgie. Qu'est-ce qu'il y a justement entre cette nécessité et l'accès? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une correspondance entre les deux? Ce que je veux dire, c'est que quand on a besoin d'une chirurgie, aujourd'hui on pense en Afrique subsaharienne, est-ce qu'on a la chance de pouvoir être opéré?
Malheureusement, je peux dire globalement non. Malheureusement, non, parce que l'accès aux soins, de façon générale, est quelque chose de très difficile en Afrique. Et l'accès à la chirurgie cardiaque est encore plus difficile.
Faute de quoi? Faute de moyens?
Faute de moyens d'abord, parce que les moyens, on va dire, les moyens humains déjà sont limités. Il n'y a pas assez de chirurgiens cardiaques formés en Afrique. Et ceux qui sont formés n'ont pas aussi les moyens, les infrastructures pour pouvoir travailler correctement.
Ça veut dire un bloc, par exemple, un bloc digne de ce nom, les moyens de réanimation?
Absolument, un bloc opératoire. Et des consommables médicaux pour pouvoir faire fonctionner ces blocs. On a la chance d'avoir des centres de chirurgie cardiaque en Afrique pour l'Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout récemment aussi au Mali, où la chaîne de l'espoir a aidé à développer un centre de chirurgie cardiaque.
Mais il y a vraiment des efforts à faire en ce sens.
Absolument, il y a des efforts importants à faire au niveau des États pour pouvoir développer cette chirurgie cardiaque. Pour prendre en charge justement ces cardiopathies, notamment des valvulopathies, on doit en parler justement au cours de ce congrès, des valvulopathies en Afrique subsaharienne, pour prendre en charge aussi des cardiopathies congénitales, et puis aussi prendre en charge les complications de la maladie coronaire, donc pouvoir réaliser des pontages aorto-coronariens.
Parce que dans ce cas-là, on peut véritablement sauver des vies.
Absolument, transformer le pronostic des patients.
Merci beaucoup, professeur Roland Guetta, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les questions des auditeurs au docteur Catherine Solano, sexologue, qui est à mes côtés. Bonjour, docteur Solano.
Bonjour, Caroline.
On prend tout de suite une question d'un auditeur du Cameroun, de la ville de Garoua, c'est Habib. Bonjour, Habib.
Oui, bonjour.
On écoute votre question, Habib.
Oui, j'ai dit, je prends régulièrement du Viagra depuis 10 ans. Je ne sais pas si il y aura des conséquences dans l'avenir pour ma vie sexuelle.
Docteur Solano, quelles conséquences donc Habib prend depuis longtemps ce produit? Il se demande si cela peut avoir des conséquences pour son activité sexuelle.
Alors, déjà, je voudrais dire que souvent on parle du Viagra, mais maintenant on utilise souvent le nom chimique, c'est le sildénafil, pour une raison simple, c'est parce que maintenant il y a des génériques qui sont vendus en pharmacie et qui sont à peu près 5 fois moins chers que le Viagra était au début. Donc j'insiste pour le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'achètent au marché noir, alors que maintenant, au marché normal et contrôlé, c'est pas cher. Voilà, donc ça, c'est important. D'autre part, pour répondre à Habib, ce médicament, il a été breveté en 1996. Donc, ça fait 20 ans qu'on l'utilise. Et donc, on a énormément d'années de recul. Donc, 20 ans pour connaître ses effets indésirables. Donc, en fait, ces effets indésirables, il se manifeste plutôt au moment de la prise du médicament. C'est-à-dire que vous le prenez dans les heures qui suivent, dans les 7 heures à peu près, parce que ça peut agir pendant à peu près 7 heures. Sur le long terme, a priori, il n'y a pas de problème particulier. En particulier, je pense qu'Habib voulait peut-être poser cette question, il n'y a pas d'accoutumance particulière à ce médicament. C'est-à-dire que si on arrête, on n'aura pas des moins bonnes érections qu'avant. Elles peuvent être moins bonnes parce qu'évidemment, le médicament les améliore, mais c'est pas dû à une accoutumance au médicament. Donc, les effets indésirables, je vais quand même... Sur le long terme, il n'y a pas d'effet indésirable sur le cœur. Il y a plutôt des effets bénéfiques sur la tension parce que c'est vasodilatateur, ça dilate un peu les vaisseaux. Et même, on sait que ces médicaments sont bénéfiques pour la prostate. Il y a un médicament de la même famille que le Viagra, donc le sildénafil, qui s'appelle le tadalafil, qu'on peut prendre tous les jours pour améliorer les symptômes d'une prostate qui est trop grosse. Et il y a donc des hommes qui les prennent pendant plusieurs années, tous les jours. Donc on a du recul pour savoir qu'il n'y a pas de problème particulier de santé.
Alors sur les effets indésirables dont vous nous parliez brièvement, brièvement là, au moment de la prise du médicament, quels sont justement ces problèmes?
Alors, ce qui se passe le plus souvent quand il y a des effets indésirables, c'est des bouffées de chaleur sur le visage, c'est-à-dire vous avez le visage qui chauffe tout d'un coup, ou des maux de tête. Et ça, ça peut être gênant, les maux de tête, mais c'est dû au fait que ce médicament dilate les vaisseaux aux extrémités, donc au niveau du pénis, c'est le but hein, quand on le prend, mais il peut aussi dilater sur le visage, donc on a une bouffée de chaleur, ou au niveau de la tête, ou des fois du nez, ça fait comme si on avait le nez bouché parce que les petits vaisseaux sont dilatés. Mais c'est pas dangereux, c'est juste gênant. Chez certains hommes, il y a aussi un effet indésirable assez étonnant, c'est que ça peut provoquer une vision du monde en bleu. C'est comme si vous voyez le monde à travers un voile bleu. Ben, c'est dû au fait qu'il y a des récepteurs du médicament dans les yeux et ça change un petit peu la vision. Mais c'est pas grave, ça s'arrête dès que l'effet du médicament s'arrête. Et il y a des hommes aussi qui ont des fois des nausées. C'est les effets les plus fréquents. Donc, vous voyez que c'est pas très grave dans le sens où si jamais on le supporte pas, ben on en reprend pas, puis c'est tout.
Voilà pour toutes ces précisions du docteur Catherine Solano.
Et quand même, je rajoute quelque chose pour Habib. Sur la vie sexuelle, ça donne pas de problème à long terme. Néanmoins, si un homme est diabétique ou a une maladie qui abîme ses artères ou ses nerfs sexuels, le médicament peut avoir de moins en moins d'effet, mais pas parce qu'il marche pas, c'est parce que la maladie s'aggrave ou
les vaisseaux s'abîment. Parce qu'il y a un autre problème de santé.
Voilà, voilà.
Voilà pour toutes ces explications. Habib, on vous souhaite une excellente journée au Cameroun, à Garoua. Et puis, j'ai sous les yeux une question Facebook. Docteur Solano, question signée Sidi. Quelle est la différence entre le plaisir et l'orgasme?
Alors ça, c'est une grande question. Alors le plaisir, tout le monde sait ce que c'est ce qui fait plaisir. Je vais donner des exemples. Par exemple, être attiré par quelqu'un, c'est déjà un plaisir. Séduire quelqu'un, c'est un plaisir. Danser ensemble, toucher la peau de l'autre, s'embrasser, faire des caresses, des préliminaires, c'est du plaisir. Et d'ailleurs, par exemple, manger du chocolat ou un bon petit plat, c'est aussi du plaisir. L'orgasme, c'est très différent. C'est un réflexe qui survient automatiquement dans notre corps quand on arrive à un certain niveau d'excitation. Donc c'est un réflexe et ce réflexe produit des contractions dans la zone sexuelle, des contractions qui sont automatiques et involontaires. Donc chez l'homme, ça déclenche l'éjaculation. Vous savez, c'est des contractions qui déclenchent l'éjaculation. Et chez la femme, il y a des contractions vaginales. Alors, pourquoi on peut les confondre? C'est que la plupart du temps, cet orgasme est associé à du plaisir. Mais c'est pas du tout automatique. Il y a des orgasmes sans plaisir. On appelle ça des orgasmes anhédoniques. Donc, il y a le réflexe de contraction, mais pas de plaisir. Et il y a même des personnes qui ont des orgasmes douloureux.
Pourtant, il y a beaucoup de monde qui confondent encore ces deux termes, hein, orgasme et plaisir.
Oui, et je pense que si on les confond souvent, c'est beaucoup parce que le mot orgasme est assez tabou encore. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui demandent à leur partenaire « Est-ce que tu as eu ton plaisir ?» Pour eux, ça veut dire « Est-ce que tu as eu ton orgasme ?» Mais une femme ou un homme, d'ailleurs, peut très bien avoir un rapport sexuel avec beaucoup de plaisir, même s'il n'y a pas d'orgasme. Et de la même manière, il y a beaucoup d'hommes qui ont déjà expérimenté quelque chose. C'est un orgasme, une éjaculation très rapide en quelques secondes ou quelques secondes et ils vont dire moi j'ai pas eu de plaisir en fait, j'ai eu un orgasme mais j'ai pas eu de plaisir ou très très peu. Et donc il y a une autre raison aussi, c'est que pourquoi on confond orgasme et plaisir, c'est que le plus souvent quand tout fonctionne bien, l'orgasme c'est le moment où on a le maximum de plaisir. Du coup orgasme et plaisir c'est lié mais c'est pas la même chose.
Merci beaucoup pour toutes ces explications docteur Catherine Solano, je rappelle que vous êtes sexologue. On vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. On se retrouve demain.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.